Tu veux que tu montres le livre ou non? Bon, c'est pas ton livre.
Lequel?
Ah non, c'est pas ton livre. D'accord, d'accord. Philippe Chagnal est professeur à Paris 9, Dauphine. Il est sociologue, secrétaire du MUS. Il a beaucoup de publications, notamment un livre récent qu'il a organisé, La société vue dedans, qui était publié chez Découverte, c'est ça?
Oui.
Il va vous parler, son titre, Les dons, la réciprocité et l'au-delà et en... L'un des saints de sa réciprocité explique tout cela. Non.
Comme le titre est. Non.
Pardon.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on va changer le titre immédiatement.
Non, c'est ma faute. C'est ma faute.
Non, c'est pas ta faute, c'est la mienne. Et je vous propose d'appeler ma communication Une sociologie par le don, pourquoi faire et à quoi bon. Alors je m'excuse tout de suite du ton un peu aquaboniste de cette communication, mais vous avez sûrement lu la nouvelle introduction à laisser sur le don, celle de Florence Weber, succédant à Lévi-Strauss. Et vous avez lu comme moi qu'il faudrait désormais en finir avec le don, ou plutôt lire laisser sur le don pour en finir avec le don. Alors ça fait quand même un choc, évidemment. Et récemment, j'ai eu un autre choc, c'était dans le cadre du colloque organisé par Julien, où était présent Éric Pilote. Et dans le cadre de ce colloque, une très belle intervention était consacrée à la mendicité et au SAMU social. Et un intervenant, pour lequel j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime, a pris la parole pour lui reprocher justement de décrire son objet, la mendicité, le SAMU social, dans le langage du don. Comme si elle faisait une faute de grammaire dans les régimes d'action. Alors, au MUS, on a l'habitude d'un certain nombre de critiques. Le don comme illusion, comme mirage un peu candide, le don comme mensonge social, on s'en est remis, on les a discutés. Il nous est même parfois reproché d'avoir des hallucinations collectives, bref, de voir du don partout, de considérer que tout est don et réciproquement, comme si on suggérait en fait que le don à lui seul pourrait faire société. Alors, on va passer sur la critique classique de l'illusion ou du mensonge social, c'est la vieille querelle de l'intérêt et du désintéressement, on en a reparlé d'ailleurs ce matin. Un mot juste sur l'hallucination. Je pense que jamais nous, alors c'est un nous très inclusif, s'y reconnaîtront ceux qui le voudront, jamais nous n'avons prétendu que tout serait don, mais simplement que le don existe encore. Et que quel que soit cela, bien sûr, quelle que soit la prégnance d'autres formes de relations, des relations d'intérêt, des relations de pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'essaie de clarifier un petit peu pour moi déjà le projet du MUS tel que je l'entends. C'est-à-dire que le don, il est pour nous l'une des modalités du rapport social. Il est un objet que nous traquons, et on donne presque des primes, lorsqu'on arrive à le trouver dans les sphères sociales où on l'attend le moins, notamment dans la sphère du travail, des organisations, etc. Et c'était la perspective du livre, La société vue du don, reprendre les champs classiques de la sociologie, la famille, le travail, la religion, la santé, l'art, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut appréhender les relations qui s'y nouent dans le langage du don, dans la perspective du don. Mais les deux premières critiques par lesquelles j'ai commencé mon exposé, elles sont un peu différentes, parce que qu'est-ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'elles nous opposent en tous les cas? Elles nous opposent la chose suivante, c'est est-ce que le langage du don, est-ce que son concept, si jamais le concept de don existe, est-ce qu'il est adéquat pour décrire, pour analyser les relations humaines en général, ou du moins certaines d'entre elles? Est-ce que le langage du don est fécond et heuristique pour étudier ceux qui circulent entre les hommes, pour parler comme Jacques. Et je crois que cette critique, il faut la prendre au sérieux, parce qu'on n'est pas clair d'un certain point de vue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que non seulement nous affirmons que le don existe, qu'il constitue un objet légitime en sciences sociales, qu'il constitue une forme de relation distincte, ce qui nous est déjà reproché d'un certain point de vue, notamment par Florence Weber, je crois, mais aussi que le don, pour nous, c'est quand même plus que le don. Je crois qu'il y a quand même une idée fondamentale ici. Nous sommes les héritiers autoproclamés, donc contestés, de Mauss, et nous avons comme lui l'intuition qu'avec le don, nous touchons le roc. On touche à quelque chose de peut-être d'essentiel, au roc de la morale éternelle, au roc de la vie sociale normale, pour reprendre les formules de Mauss, ou au roc même du droit, pour faire référence à l'exposé précédent. Bref, le don nous apparaît sous deux aspects, à la fois comme un mode de socialité humaine parmi d'autres, et en même temps, quand même, comme l'opérateur privilégié de la sociabilité humaine. pour ici employer des formules d'Alain Cailler. Comme une forme de relation parmi d'autres, et en même temps comme la matrice des relations interhumaines. Et donc il y a cette tension qui me paraît essentielle à éclaircir, du don à la fois comme un objet, et en même temps justement comme un paradigme. Ce qui fait qu'on est toujours à cheval entre une sociologie locale ou régionale, et en même temps une sociologie ou une anthropologie générale. C'est une vraie difficulté. Les deux faces, elles sont en tension. Et comment essayer de travailler un petit peu cette tension? C'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans la préface et la postface de l'ouvrage La société vue du don. J'ai essayé de proposer un plaidoyer pour une sociologie par le don. Alors, en quoi peut consister cette chose étrange d'une sociologie par le don? Je crois qu'elle consiste en deux choses, en tous les cas en deux étapes. Ce qu'elle propose, d'abord, c'est de chausser d'autres lunettes pour regarder le monde social. Elle propose de lire en clé de don la petite musique ou la grande musique que jouent les acteurs sociaux. Et par là même, elle essaye, grâce à ces lunettes du don, de dégager ce que le don donne à voir. Alors, parce qu'il y a d'autres lunettes, les lunettes de l'intérêt ou du pouvoir, qui ne nous permettent pas de voir un certain nombre de choses. Donc, on peut le dire d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire qu'une sociologie par le don fait le pari méthodologique de l'homo donator. On va observer le monde social en mettant en scène, pas simplement l'homo economicus, mais l'homo donator. Une perspective idéale typique d'un certain point de vue, ou typiquement idéalisante, on pourrait dire. Bon. Mais je crois, en même temps, pour la raison que je viens de rappeler, qu'il ne s'agit pas simplement d'une posture méthodologique. Il ne s'agit pas simplement de chausser des lunettes ou d'autres lunettes. Il ne s'agit pas d'un simple perspectivisme. Moi, ce qui m'a frappé en relisant les différents textes qu'on a réunis, c'est que si les lunettes du don, elles apportent une réelle intelligence de la délicate essence du social, eh bien, c'est peut-être parce que, de façon frappante, toutes les relations sociales, elles semblent modéliser les différents éléments constitutifs de la relation de don. Et donc, l'hypothèse de travail que j'ai suggérée, que je voudrais un peu développer et rapidement, c'est que, bien sûr, tout n'est pas don. Rappelons-le, tout n'est pas don. Mais, en même temps, je crois qu'il n'est pas illégitime de faire le pari que les autres modalités du rapport social, qui ne sont pas du don, elles ne peuvent être comprises sans le don. Et même que les autres modalités du rapport social peuvent peut-être analytiquement, peut-être génétiquement aussi, il faudrait voir, qu'elles peuvent analytiquement, justement, s'en déduire. Et donc, le projet était celui-là, dans quelle mesure et où ça nous conduit de considérer le don ou d'instituer le don comme un étalon analytique, comme un étalon descriptif de ce que j'appellerais la relation humaine. Je laisse de côté un autre volet important, qui est sa dimension d'étalon, non pas simplement analytique ou descriptif, mais également d'étalon normatif. Alors, avant d'arriver à mon point de fuite, qui va constituer un schéma assez incertain et un peu illisible, je voudrais quand même revenir sur notre roc, sur ce statut matriciel du don. Pourquoi on donne ce privilège particulier au don? Alors, en relisant l'essai, je suis retombé sur cette formule de Mauss. Elle est toute à la fin, elle est dans la conclusion. Lorsqu'il décrit le moment du don, sous cette formule-là, l'instant fugitif où la société prend. Cette idée que, dans ce moment du don, en quelque sorte, le social s'offrirait à nous. Le social se donnerait à voir, in statu nascendi, se nourrait devant nous, le rapport social. Comme s'il s'agissait là d'un pur moment de société. Comme s'il s'agissait là d'une sorte d'épiphanie du social. Et cette image, elle m'a pas mal travaillé. Parce que je me demandais, voilà, c'est quoi être sociologue ou anthropologue? C'est quoi notre bonheur? Ou c'est quoi la condition de félicité de notre vocation? C'est peut-être justement d'être témoin d'un tel instant. D'être témoin de cet instant fugitif où la société prend. Comme pour un astrophysicien, c'est peut-être de découvrir, j'y connais rien, une nouvelle galaxie, une éclipse de, voire être témoin d'une éclipse de soleil, ou pour un botaniste, de découvrir une espèce nouvelle. Enfin, je crois qu'il y a une sorte de bonheur particulier à voir ça, à être témoin de ça. Et en quelque sorte, c'est bien ce que cherchait Simmel. Essayer justement de saisir ces purs moments de Vergesellschaftung, ce moment où la société se fait, où la société prend. C'est aussi ce que cherche, me semble-t-il, d'un certain point de vue, l'interactionnisme ou l'ethnométhodologie, en étudiant dans une conversation, une simple conversation, une banale conversation, ou dans une file d'attente, justement, comment advient l'ordre social. C'est aussi, et plus profondément et plus intéressant pour moi, la belle description que Marcel Hénaff reprend dans quelques-uns de ses récents textes de Lévi-Strauss dans les structures élémentaires de la parenté sur les fameux restaurants du midi et l'échange des pichets de vin, où il nous dit qu'il y a dans ce geste absolument banal d'échanger de vider son pichet de vin dans le verre du voisin, il y a comme en écho cette situation fondamentale dans laquelle des individus ou des bandes primitives entrent en contact pour la première fois. Donc c'est beaucoup plus que le simple fait de convivialité. C'est un écho lointain à une sorte de scène originaire. Voilà. J'ai envie de dire les choses en ces termes-là. Comme s'il y avait pour nous, sociologues et anthropologues, une sorte de scène originaire, alors qu'il y a un sens aussi analytique particulier, qui ressemblerait à une sortie de l'état de nature, où le don incarnerait, en quelque sorte, un pacte de société. Scène originaire, récit des origines, ils sont très nombreux en ethnologie. Marcel Hénaff, dans Le Prix de la Vérité, puis dans les textes plus récents, reprend cette très belle description d'Andrew Strathern, cette première rencontre entre un septuagénaire, je crois, qui voit arriver, ou qui rapporte en tous les cas à Strathern. Comme vous le savez, la Nouvelle-Guinée a été découverte, entre guillemets, assez tardivement. L'arrivée du premier blanc, on ne sait pas véritablement s'il s'agit d'un homme ou s'il s'agit d'un monstre un peu blafard, surtout parce qu'il est blanc, comme nous en parlent les mythes, etc., etc. Et le test d'humanité, ça va être le don lui-même. C'est-à-dire, on va échanger des cochons contre, je ne sais plus, des colliers ou autres, mais effectivement, le don ici vient symboliser justement cette alliance. Elle constitue un test, véritablement, c'est la formule de Marcel, et je la trouve très forte, un test d'humanité. Donc, c'est en ce sens-là déjà que l'on voit dans quelle mesure le don est plus que le don. Et cette scène, bien sûr, vous le savez, elle est présente chez Mauss, c'est cette scène de la rencontre des deux groupes étrangers, qu'est-ce qu'ils font? C'est cette scène de la confrontation à l'altérité, cette scène du face-à-face, cette scène de l'exposition à l'autre, cette scène du corps à corps, face à laquelle il y a une double alternative, nous dit Mauss, je ne reprends pas ces passages bien connus, se confier ou se défier. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient effectivement ce pur moment de socialité, en quelque sorte, à travers l'alliance qui est conclue par le don, le don comme performateur d'alliance, comme symbole de reconnaissance. C'est bien cette formule de Mauss, il a bien fallu poser les lances. Alors ce que montre cette épiphanie du social, cette épiphanie de la relation humaine, c'est qu'elle opère toujours sur fond de violence. Le don n'a rien de gentillé, de naïf, etc. Et elle montre combien le don contient, et au double sens du terme, la violence, en quoi le don, en tant que performateur de confiance, j'y reviendrai, contient également au double sens du terme la défiance. Je voulais poser ça parce que je pense que dans le regard du sociologue, il y a cette volonté de toucher ce moment-là. Mais c'est un moment dans lequel, justement, tout se noue. On est bien dans un cadre, on pourrait dire, d'anthropologie générale. Et je voudrais aller un tout petit peu plus loin, le traduire un peu dans d'autres termes, essayer de voir qu'est-ce qu'elle signifie, cette scène originaire dont je viens de vous parler. Et je vais le faire dans les termes, qui sont liés à une lecture assez récente, de Judith Butler, dans ce très très beau livre qui s'appelle « Vie précaire ». Et notamment un texte consacré au deuil après le 11 septembre. Et elle nous dit que cette scène originaire, ou en tous les cas, j'aurais traduit ainsi, elle est indissociable d'un mode d'être originel. Et ce mode d'être originel, pour Butler, c'est le caractère irréductible de l'exposition, de l'exposition des corps. Nous sommes des êtres nécessairement exposés aux autres, exposés en un sens particulier, exposés dans notre vulnérabilité. Une vulnérabilité qui est d'abord corporelle. C'est le fait d'être d'emblée à découvert. C'est le fait d'être d'emblée à nu, un peu au sens d'Agamben. C'est ce qui définirait, pour Butler, la condition même de la vie humaine, qui apparaît avec la vie elle-même, d'ailleurs, la vulnérabilité de l'enfant. Cette condition-là, elle est celle d'une précarité de soi, d'une précarité d'autrui, c'est-à-dire, au bout du compte, la précarité de la vie elle-même. Et ce qu'elle montre bien, et je trouve que c'est très intéressant du point de vue du paradigme du don, c'est que nous sommes fondamentalement dépendants des autres. Nous sommes fondamentalement livrés aux autres. Nous sommes fondamentalement assujettis aux autres. Mais en un sens double chez Butler. C'est-à-dire qu'on est indissociablement constitué par nos relations et en même temps dépossédé par nos relations. C'est-à-dire que pour Butler, cet assujettissement lié à notre condition corporelle, à la coprésence des corps, à la fois elle nous fait, parce que le moi, ce n'est pas une entité fixe, ce n'est pas une substance donnée, c'est pour Butler une batterie de relations et de processus relationnels. Et dans cela joue un rôle essentiel pour Butler les premiers donneurs de soins, notamment de l'enfant, mais cet assujettissement, cette interdépendance, cette vulnérabilité, elle nous fait, et en même temps, elle nous défait. Parce que justement, elle nous expose toujours à la menace de la violence, du fait même de cette exposition des corps. Elle a une formule très forte, elle dit « qui dit corps dit mortalité, vulnérabilité, puissance d'agir, c'est-à-dire désir. La peau et la chair nous exposent au regard et au contact des autres, comme à leur violence. » Donc il y a une ambivalence de la vulnérabilité, c'est comme ça que je retraduis cette scène originaire, au sens où elle peut conduire tout autant à se confier à l'autre qu'à s'en défier absolument. Elle peut conduire tout autant à reconnaître l'autre qu'à l'agresser. Alors, c'est en ces termes, pourrait-on dire, que je voulais retraduire ce statut matriciel du don. En ce sens qu'il permet de transformer justement la guerre en paix, la violence en alliance, la défiance en confiance. Ces quelques remarques permettent de pointer aussi dans quelle mesure le don nous permet de pointer un élément fondamental, c'est-à-dire l'indétermination des relations, l'indétermination du fait de la coprésence. Le fait que cette coprésence-là, elle ouvre tout autant à l'acceptation d'autrui qu'au rejet d'autrui. Et cette indétermination, elle a un sens ontologique, elle est liée à cette vulnérabilité, me semble-t-il, qui est induite par l'exposition des corps. Alors la question qui se pose après, et j'essaye d'avancer vraiment à toute vitesse, en quoi le don permet-il de lever partiellement, provisoirement, cette indétermination? En quoi il permet de faire face à l'altérité? En quoi il permet de reconnaître cette vulnérabilité? On pourrait dire que la réponse de Lévi-Strauss, et notamment telle que Marcel Hennaff la reformule, c'est avant tout la réciprocité. C'est la réciprocité, effectivement, qui permet de faire face à cette indétermination, de faire face à l'altérité. Il écrit dans le texte qui vous présentera demain ou après-demain, donc c'est en avant-première, la réciprocité, il la définit comme ce qui permet d'inventer un lien dans le paradoxe d'un face-à-face où chacun s'affirme, s'oppose et en même temps est appelé à accepter ou non autrui. C'est ce qui manifeste la capacité d'assumer et en même temps de transgresser la distance justement qui les sépare. Il me semble que par rapport à cela, la réponse d'Alain Cayet, la réponse de Jacques Godbout est assez différente. Il ne nie pas la réciprocité, et simplement, je crois qu'il refuse d'y réduire le don. Ou peut-être nous propose-t-il que le don englobe la réciprocité, contient la réciprocité, mais en un sens hiérarchique, comme si la dimension de générosité était hiérarchiquement première, un peu au sens de Dumont, et qu'elle englobait en ce sens-là la réciprocité. Elle est présente, mais elle est secondarisée en termes d'articulation hiérarchique. Ça permet de mettre en valeur quoi ? Ce que, me semble-t-il, la pure réciprocité ne permet pas, c'est la dimension de pari du don, c'est-à-dire d'un pari de générosité. Et c'est ce que Jacques a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire donner, oui, mais donner pour que l'autre rende. Et la générosité du don, on pourrait peut-être la pointer avant tout de ce point de vue-là. Et je crois même qu'en mettant l'accent sur la vulnérabilité, comme j'ai tenté de le faire très, très vite, que cette dimension de générosité, elle est fondamentale. La vulnérabilité, la relationnalité, elle suppose effectivement cette ouverture à la générosité. C'est dans ce cadre-là que j'ai tenté d'aller voyager vers cette grammaire des relations humaines. Et comment je l'ai fait? Justement, en retenant ces deux termes. D'un côté, la réciprocité, de l'autre, la générosité. Je l'ai fait, vous le verrez dans le texte, en m'inspirant très librement d'un sociologue américain, Alvin Gouldner, pour qui il y a deux normes universelles que l'on retrouve dans toute société qui assurent le maintien des systèmes sociaux. Il a un langage un peu fonctionnaliste. Ces deux normes universelles, c'est d'une part ce qu'il appelle la norme de réciprocité et de l'autre la norme de bienfaisance que je traduirai en norme de générosité. Cette norme de réciprocité, elle est très large chez lui, trop large sûrement. Mais comprenez-en bien la structure, c'est la norme du tit for tat, c'est la norme du rien sans rien, c'est la norme du donnant-donnant. Elle s'applique tout autant à la réciprocité des droits et des devoirs, par exemple statutaires, liés aux rôles sociaux. Elle s'applique à la réciprocité des politesses, elle s'applique à la réciprocité de l'échange des femmes, mais elle s'applique tout aussi bien à la réciprocité de l'échange économique comme elle s'applique à la réciprocité de la loi du talion. Si on voulait retraduire dans le langage du don cette norme de réciprocité, hein, on pourrait le faire en ces termes-là. Je donne à celui qui m'a donné, en raison d'un endettement passé, à celui qui me donnera, dans la perspective d'un bénéfice à venir, ou celui qui me donne présentement, hein, au regard d'une obligation présente. Très important, les relations qui se nouent à partir de cette norme de réciprocité, ce sont des relations, pour Goudner, symétriques et réversibles. La deuxième norme, la norme de générosité, elle, ce n'est pas la norme du rien sans rien, c'est la norme du « something for nothing » dans la formule qu'en donne Goudner, c'est-à-dire la norme du « quelque chose contre rien », donc ce qui excède, en fait, la norme de réciprocité. On n'est plus dans le registre de la conditionnalité, je donne si on m'a donné, si on me donnera, si on me donne présentement, on bascule dans un autre registre, le registre de l'inconditionnalité. C'est-à-dire qu'au regard de cette norme, on se lie à autrui indépendamment de ce que les autres ont fait, font ou feront. On se lie à autrui en raison de ce qu'ils sont. On n'est plus dans le registre du faire, on est dans le registre de l'être, en fonction de ce qu'ils sont, c'est-à-dire, principalement pour Goudner, en fonction de leurs besoins. C'est cette norme qui s'applique pour lui à ceux qui s'avèrent incapables d'entrer dans des relations de réciprocité, la relation parent-enfant, la relation avec des malades, etc., etc. Mais plus généralement, et c'est pour ça que c'est intéressant chez lui, hein, il y aurait donc une norme qui appelle à faire plus que ce qu'exigent les obligations strictes liées à la norme de réciprocité. Et pour faire un clin d'œil à la présentation de Norbert, hein, ce que j'évoquais dans la question que je formulais était tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il essaye de montrer comment, même dans une société capitaliste, dans une entreprise capitaliste, sa façon de tenir, en quelque sorte, consiste, et là c'était du point de vue de la direction, justement à donner quelque chose contre rien, c'est-à-dire à établir avec ses salariés une relation qui n'est pas limitée à la stricte réciprocité. C'est la norme, c'est l'idée d'indulgence que tu évoquais très très bien. Et donc cette entreprise, elle fonctionnait bien parce que justement, les salariés avaient la possibilité d'obtenir des droits, on pourrait en dire, pour lesquels ils n'avaient aucun droit. Ils n'étaient pas en droit de réclamer, d'utiliser les outils de l'atelier, de pouvoir partir, quitter leur travail pour accompagner leur femme à un rendez-vous médical, etc., etc. C'était justement cette indulgence-là, ce jeu avec la règle, qui permettait à la société de tenir. Alors, on a deux normes ici qui peuvent être clairement circonscrites. Ce qui m'a frappé en le lisant, c'est que son analyse est assez proche d'un texte très classique que vous connaissez sûrement, La sociologie de l'échange primitif de Salins. Et d'ailleurs, Salins, Marcel le rappelle, cite Goudner. Et vous le savez peut-être, mais ça permet de complexifier le modèle. Après, j'arrive à ce que je veux vous présenter. J'en aurai pour pas trop de temps.
Pas beaucoup de temps.
Ouais. Parlé, je suis à combien là ?
Ça parlait 20 minutes déjà.
Non, très très vite. Chez Salins, on voit la distinction entre ce qu'il appelle la réciprocité généralisée, c'est-à-dire sans exigence de contrepartie ou avec une faible exigence de contrepartie, c'est-à-dire en fait la générosité, qu'il distingue de la réciprocité équilibrée, le registre du donnant-donnant, par exemple les transactions matrimoniales. Donc là, on est bien dans le pôle de réciprocité au sens de Goudner. Il y rajoute très intéressant ce qu'il appelle la réciprocité négative. Et il la définit en ces termes, c'est tout effort d'acquérir impunément quelque chose contre rien. Est-ce que c'est une réciprocité négative ou une sorte de renversement de la générosité? C'est assez intéressant. C'est quoi pour lui le profit utilitaire? C'est l'échange économique. Mais au-delà, ça peut être la prédation, la guerre, la domination. Eh bien, par rapport à tout ça, comme j'ai été très long, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ces différents éléments de la façon suivante. C'est-à-dire, je crois qu'on peut circonscrire très simplement deux pôles. Le pôle de la générosité, d'une part, à partir de Goudner, le pôle de la réciprocité. Ces deux pôles correspondent à l'accent mis sur certains moments fondamentaux dans le système maussien. Dans le cadre de la générosité, pour moi, c'est le donné. C'est la primauté du moment du donné ou de l'obligation de donner. Dans le cas de la réciprocité, l'accent est mis sur la dimension du rendre ou sur l'obligation de rendre. Pour Goudner, le don se trouve quelque part ici. Il est justement à l'entrecroisement de la générosité et de la réciprocité, et plus précisément, c'est une forme de relation dans laquelle la générosité est première par rapport à la réciprocité. Si on essaye de formaliser un peu plus les choses, et là je vais vraiment à toute allure, si on s'intéresse à Mauss, oui, il y a l'obligation de donner, de rendre, mais il y a également celle de recevoir. On peut tenter de la mettre en scène de la façon suivante, sur cet axe-là. Ce qui permettra de distinguer d'abord des formes de dons dans lesquelles l'accent est mis d'une façon privilégiée sur le donner, ou sur le rendre, ou sur le recevoir. À partir de cela, ça veut dire que le don chez Mauss, il est là. Dans l'ensemble de la partie nord, sur cette triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Ça correspond pour moi à deux autres pôles que je dois compléter. Ici, je vous l'ai dit, le pôle de la générosité. Ici, celui de la réciprocité. Je mets, et je m'en expliquerai plus dans les questions, du côté du recevoir, le pôle du pouvoir. Et enfin, pour compléter mon schéma, je vais malheureusement beaucoup trop vite, je m'inspire de ce que j'ai évoqué à partir de Salins, cette idée de réciprocité négative. Il montre que la réciprocité négative, elle est du côté du prendre, du côté de la prédation, on pourrait dire en général. Donc on aurait ce registre du prendre que je renverrais, moi, à une logique différente de celle de la réciprocité du pouvoir et de la générosité, la logique de la violence. Donc on aurait ces quatre pôles, donner, recevoir, rendre, générosité, pouvoir, réciprocité, avec comme revers, pourrait-on dire, celui de la violence et du prendre. À partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et juste, je le suggère, on en discutera après. Je crois qu'on peut essayer de clarifier justement la grammaire du don. Il y a des formes de dons dans lesquelles l'accent est mis sur l'une de ces dimensions. Ici, je mettrai le don agonistique. Ici, je mets le don agonistique au sens où ce qui est premier, c'est bien le donner pour que l'autre donne. C'est-à-dire que c'est la générosité qui suscite la réciprocité. Ici, je mettrai le don rituel. Un peu au sens de Marcel, même si ça pose un certain nombre de problèmes. Mais des formes de dons dans lesquelles l'accent est mis sur la réciprocité. L'exigence de générosité décroît. L'essentiel, c'est justement cette logique de stricte réciprocité. Ici, je mettrai quoi? Dans les relations dans lesquelles le donner à son importance, mais l'accent est mis davantage sur le recevoir. On pourrait le mettre ici le don gracieux. C'est-à-dire ce qui est premier, c'est le geste de donner. Et l'obligation seconde, c'est avant tout l'obligation de recevoir, au sens de la gratitude, etc. Et enfin, je distinguerai un quatrième niveau, c'est ce que j'appellerai le don hiérarchique. C'est-à-dire, effectivement, le don est fait, mais non dans la perspective de pouvoir être rendu. Il faut qu'il soit reçu. Ça peut être le don hiérarchique au sens d'un rapport de protection, de clientèle, ou ça peut être le don de l'enseignant à son élève, etc., etc. Ce qui est intéressant à partir de ça, c'est qu'on peut en voir le revers. Et je verrai comme revers, ici, ce que je nommerais le don poison, c'est-à-dire un don qui est fait pour justement ne pas être rendu, pour écraser celui qui le reçoit. On pourrait, de la même façon ici, montrer que on est dans un registre autre que j'appelle le registre de l'antidon, dans lequel on donne essentiellement des coups sans exigence de réciprocité. Le domaine de la prédation. Ce domaine de la prédation, il se distingue d'un autre régime, qui est celui de la réciprocité négative, qui est laquelle on donne des coups, mais on se donne symétriquement des coups. C'est le cas de la violence. Il y a bien une réciprocité dans la violence, non pas la réciprocité positive d'un rituel, mais une réciprocité négative. Donc on pourrait appeler ça le don négatif. Je crois que c'est comme ça qu'Alain l'a appelé dans certains textes. Et enfin, quatrième modalité, ça serait le donnant-donnant. Le donnant-donnant du troc. Le donnant-donnant de l'échange économique. Et ma suggestion à partir de ça, et j'en ai vraiment terminé, c'est que si on clarifie un petit peu ces différentes dimensions du don, on peut s'ouvrir à des formes de relations sociales beaucoup plus larges, que je proposerai de la façon suivante. À partir du don gracieux, pensez à des relations, je vais les appeler de sollicitude. Ça pourrait être, ça renvoie à la dimension du don moral, etc., des choses qu'on a évoquées, ou du don harmonique. Ici, dans le cadre du don hiérarchique, ce sont les relations d'autorité. Le don poison renvoie bien sûr aux relations de domination. L'antidon, la prédation, c'est ce que je nomme dans le texte la guerre. La guerre de conquête, pas la guerre rituelle, organisée, etc., etc. La guerre de prédation, disons. Le don négatif renvoie à la vengeance. sous toutes les formes de vengeance mutuelle, ritualisée, etc. Et enfin, le donnant-donnant, enfin pas enfin, il renvoie lui à l'échange, au sens de l'échange utilitaire. Et enfin, pour compléter, le don rituel, et c'est plus difficile pour moi, je n'ai pas le temps de m'en justifier, à quel type de relation plus générale il peut renvoyer, à ce que j'ai appelé dans le texte les jeux de rôle. Je pense là, en partie, au rite d'interaction au sens de Goffman, hein, c'est-à-dire toute la formalisation du lien social qui suppose des prestations symétriques entre les agents. On pourrait dire une sorte de banalisation, une sorte de routinisation du don. Et bien sûr, pour être cohérent avec ce que j'ai dit, on a des relations qui, en tant que telles, sont des relations de don, dont le cœur, pour moi, est le don agonistique, et donc je les placerai ici. Hein, donc, 8 registres différents de relations qui renvoient à 2 régimes, hein, à 4 régimes, le régime de réciprocité, les jeux de rôle, les échanges, le régime de la violence, la guerre et la vengeance, le régime du pouvoir, la domination et l'autorité, le régime de la générosité, la sollicitude et le don. Voilà, je suis désolé d'avoir été si long.
D'accord. Je crois qu'on a le temps pour quelques questions encore. Il y a des questions. On a... Oui.
Merci Philippe. Et puis, ce que tu viens de dire me permet de poser la question que j'ai pas eu le temps de poser ce matin. Je demande à toi. Tout d'abord, aussi sur ton exposé, je te remercie d'avoir relevé l'ambivalence, hein, l'ambiguïté qu'il y a dans le projet du MOS, qui est à la fois voir le rapport de don comme une des modalités du rapport social, puis de l'autre côté, de le voir comme matrice des relations interhumaines. Je pense que c'est quelque chose qui avait besoin d'être dit, c'est fait. Et puis ensuite, de voir, moi personnellement, j'applaudirais la modeste mégalomanie moussienne pour penser une sociologie générale à partir du don et de voir justement les extrêmes, les cas limites comme étant le rapport de domination, le rapport de pouvoir, le rapport de l'intérêt. Tu as mis agon dans réciprocité et puis générosité. Et donc, peut-être que tu vas pouvoir m'en dire un peu plus, parce qu'une chose qui m'a frappé ce matin, c'est que l'agon figurait dans le clan des méchants. C'est un feeling que j'avais. L'agon, en fait, c'était ce qui risquait de faire dériver le don vers justement la guerre, etc. Et qu'il y avait un peu implicitement, bon, j'en discutais un peu, je ne suis peut-être pas le seul avec cette impression-là, que l'espèce de don généreux, le don harmonique avait une espèce de préséance. Ce qui fait, à mon avis, qu'on est un peu en train de retomber dans le tort qu'on opposait à Derrida, etc. Donc, il y a toujours quelque chose comme une idéalisation du pôle de l'aimance ou du don de l'aimance. Et par exemple, le potlatch, pour moi, je pense que c'est une lecture courte que de voir que c'est ce n'est que écraser son rival. C'est-à-dire que je pense que le potlatch est fait pour susciter une réponse et non seulement écraser son rival. Et je pense que la métaphore sportive s'impose. Je vais prendre l'exemple du hockey parce que je suis québécois et ça fait plus d'horreur. Il reste 3 minutes à la troisième période. C'est 2-2. C'est le septième match de la finale de la Coupe Stanley. Et puis, bon, la tension est à son comble. Et là, effectivement, on y va pas de main morte. On frappe. On veut tuer son adversaire. Mais dans la mesure où, effectivement, je plaquerais mon adversaire contre la bande et puis qu'il serait dans un coma, etc., se révélerait le fait qu'il s'agissait d'un jeu. Et que tant qu'on reste dans les règles du fair play, et tant que implicitement ce qu'il y a dans le jeu, c'est de plutôt tout donner et de créer ainsi un moment social fort, c'est ça qui est important. Donc, pour ma part, je me pose même la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir dans tout don? Je pense que c'est une des grandes questions du colloque, en fait, il me semble que je la sens en creux, et j'ai très hâte d'entendre parler d'Arsène Hénard à propos de la réciprocité, est-ce qu'il n'y a pas une part d'agone dans tous les dons? Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas entre le pôle de l'intérêt et du désintéressement, de l'intérêt et de l'aimance, une espèce d'échelle qui va de l'agone à l'aimance, mais dans laquelle on ne sort jamais complètement de l'aimance, et on ne sort jamais complètement de l'agone? Et à ce moment-là, ce qui est perçu comme néfaste, comme don agonistique néfaste, c'est-à-dire la guerre, justement, d'animation, ben, c'est un cas limite. C'est le cas limite de la gomme, et qui correspond aussi au pôle de l'intérêt, et puis du modèle marchand, qui est un modèle pervers. Hein, c'est un rapport à l'autre où on instrumentalise l'autre. Là, ça peut être un lien avec Gérard Fournier. Et à l'inverse, ben, on retrouve ce ton hyperbolique qu'on discute, qu'on n'aime pas lire chez Derrida. Mais bon, donc c'est, moi, ce que je suis en train de te suggérer là, en fait, c'est la gomme sur une échelle avec juste deux pôles. C'est assez simple. Tu en proposes quelque chose de complexe.
Est-ce que tu veux prendre toutes les questions?
Non, mais juste très vite. L'idée du continuum, elle est indispensable. Il ne s'agit pas de mettre les formes dedans dans une petite case, les relations dans une petite case, et comme ça, j'ai fait mon travail. Ça n'aurait aucun intérêt. L'intérêt, ce sont justement les déplacements et les transformations. Et l'intérêt, pour moi, sont dans les tensions. Mais malgré tout, en le faisant comme ça, ça revient à ma scène originaire. C'est-à-dire, on a des régimes qui sont du côté de la conscience, ici. Alors, on a des régimes qui sont du côté de la défiance, hein, du côté de ceux qui unissent, hein, symbolique, et ceux qui séparent, qui divisent, le diabolique. Et en même temps, si on prend l'autre aspect est-ouest, on a des relations qui sont symétriques, relativement symétriques, et des relations qui sont dissymétriques. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut entrer dans la conscience sous des formes symétriques ou sous des formes asymétriques, et même une asymétrie positive. Hein, la symétrie de la sollicitude est une asymétrie positive. Même l'asymétrie de l'autorité dans les propres termes. C'est-à-dire, effectivement, de pouvoir reconnaître, avant tout dans la relation, un receveur, comme la relation entre l'enseignant et son étudiant, qui renvoie aussi à un pari de générosité. Hein, la générosité qui consiste justement à transmettre un savoir, à considérer que l'autre est capable de le recevoir, etc. etc. Donc, ça renvoie aussi à ma scène inaugurale. Je n'ai pas pu faire le lien d'une façon assez précise, hein, mais effectivement, il y a ce monde un peu obscien de la défense, de la défiance, et puis ce monde plutôt maussien qui essaie de comprendre comment se noue l'alliance sous ses différentes formes. Elle peut être symétrique, elle peut être asymétrique. Hein, et voilà, donc l'idée de continuum, l'idée de cercle peut paraître fondamentale, parce qu'on peut facilement basculer de l'un à l'autre, hein, et on peut étudier justement des parcours. Pourquoi on bascule si facilement de la sollicitude, par exemple, à l'autorité, voire à la domination. C'est intéressant. Comment on bascule du don à l'échange, comment on peut basculer du don à la vengeance. Hein, c'est la ronde qui m'intéresse.
On a du temps pour une question encore, je vais demander. Oui.
Après la discussion finale de ce matin, j'ai pensé que ce genre de situation, Dominique Lucier, serait particulièrement important, utile. Maintenant, je me demande si ce n'est pas l'inverse. Mm-hmm. Et sans vouloir être provocateur, est-ce que selon vous, c'est un schéma maussien, ou au contraire, est-ce que ça, en cherchant à présenter, en décomposant comme ça, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que Marcel Mauss cherche à nous dire de façon plutôt à la fois obscure, à la fois lucide, je ne sais pas. Mais est-ce que la division entre pouvoir, vengeance, échange, de façon aussi conceptualisée, est-ce qu'elle est heureuse, cette division-là, ou est-ce que le pouvoir et la vengeance ne peuvent pas être la même chose au même moment? Je ne dis pas que le schéma ne permet pas de penser comme ça. Mais moi, j'aime penser que les choses peuvent se produire en même temps. Et que la richesse de l'analyse de Mauss, c'est, dans son langage à lui, très simple, de laisser la porte ouverte à ce genre de conceptualisation-là qui est vraiment en avance, même aujourd'hui, je pense, sur ce qu'on peut offrir. Ça permet de clarifier, ça permet de nouvelles recherches. Mais je pense que ça n'épuise pas le problème du don, en décomposant comme ça. On sait très bien que depuis des années, on a cherché à repenser les catégories, le déconstructionnisme, les catégories de religion, d'économie, de politique. Là, on se retrouve avec des notions de générosité, de réciprocité, d'antagonisme. Je me pose la question, jusqu'à quand il faudra définir tous les concepts de notre langue qu'on utilise dans nos analyses scientifiques, la langue quotidienne. C'est un problème très difficile. Je ne suis pas convaincu que ma question fait beaucoup de sens, mais j'aimerais savoir si, selon vous, quelque part, dans votre esprit, ça ne va pas à l'encontre de ce que Mauss cherchait à faire.
Alain, tu avais ajouté un petit pont.
Un tout petit élément complément à ce que vous dites. Philippe le sait, moi je suis en total accord avec son entrée en matière, avec tout ce que tu dis, etc. Mais j'ai un problème avec ton schéma. Et on en a déjà parlé. Je pense que une des dimensions de la question, c'est que, de toute façon, si on fait des schémas, ça ne peut pas être des schémas bidimensionnels. Parce que c'est avec un schéma bidimensionnel, on oppose nécessairement des choses qui vont ensemble. Au minimum, si on voulait poursuivre dans cette voie, il faudrait des schémas tridimensionnels ou multidimensionnels. Mais la représentation bidimensionnelle fausse effectivement les choses.
Oui, non, juste une réponse brève. Hein. Bien sûr que Mauss nous invite à recomposer le tout, mais à recomposer le tout, c'est-à-dire que si on ne parvient pas à discriminer un certain nombre d'éléments qui constituent quelque chose comme une grammaire du don, avec des contraintes conceptuelles qui lui sont propres, on rentre dans une vraie facilité qui existe aussi, et qui me paraît assez préjudiciable, de dire de tout est dans tout, enfin tout est réversible, etc. Pour qu'on comprenne la réversibilité, il faut bien qu'on puisse d'abord conceptuellement la décomposer. Voilà. Mais c'est un strict outil. Ce qui est passionnant chez Mauss, c'est, reprenant les analyses de la Poula ou d'Hippocrate, c'est de montrer comment on circule là-dedans. Évidemment qu'on circule là-dedans. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire, comme vous le dites, qu'en même temps, au même moment, au même lieu, la vengeance, c'est la domination. Je crois que si on n'a pas quand même quelques critères discriminants, on aura une vraie difficulté à pouvoir décrire des relations, à pouvoir établir des liens entre différentes formes de relations, des basculements entre différentes formes de relations. Donc de ce point de vue-là, pour moi, c'est un outil très très provisoire qui peut m'aider lorsqu'il s'agit de repérer, comme c'est aussi un peu à la mode en sociologie française, hein, des régimes d'action. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même à essayer de chercher à formaliser un peu, d'une façon vraiment idéale typique, hein, des grammaires de relations. Parce que le risque dans le don, c'est ce qui nous revient souvent, et c'est pour ça que j'ai évoqué la critique qui nous est faite, hein, c'est de dire que vous avez ces hallucinations, vous voyez le don partout, à un point tel que vous décrivez plus rien, sinon vous-même, une sorte de chose complètement autiste. Et donc je voulais qu'on puisse tenir ce pari que le don, c'est à la fois une forme de relation, tout n'est pas don, d'accord, et en même temps, hein, le don, c'est plus que le don, et s'il a ce statut matriciel, il doit pouvoir... C'est le pari que je fais, peut-être que je me trompe, hein. Il doit pouvoir nous aider à comprendre d'autres types de relations. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas matriciel. Donc c'est l'hypothèse de départ qu'il faut abandonner. Si on prend au sérieux l'hypothèse de départ du statut matriciel du don, il doit nous aider à comprendre les autres types de relations. Et ça, est-ce que ça nous aide à comprendre les autres types de relations? C'est la proposition que je vous en fais.
Merci Philippe. J'invite Jacques Coutbout pour venir ici. Merci.